Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro de Koulam Radio depuis Jérusalem. Premier titre multiface de ce journal. Pour la première fois de son histoire, Israël s'apprête à recevoir à partir de ce soir, demain et au moins jusqu'à jeudi 23 janvier, 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, le chiffre astronomique de quelque 46 présidents, chefs d'État et ministres de haut rang venus du monde entier qui ont rendez-vous ce jour-là à l'Institut Yad Vashem de Jérusalem pour la 5e rencontre internationale sur la Shoah, un forum devant aussi définir les moyens de lutter partout dans le monde contre l'antisémitisme. Outre les préparatifs sécuritaires qu'on imagine et la longue liste des désagréments que l'hébergement et les déplacements de ces respectables hôtes vont évidemment générer 3 jours durant pour les habitants de plusieurs quartiers centraux de Jérusalem, cette concentration exceptionnelle de VIP mondiaux sera l'occasion idéale pour le Premier ministre Netanyahou et les membres de son gouvernement de multiplier les rencontres diplomatiques, multilatérales ou bilatérales. Et ce, d'autant que vont commencer demain à converger vers Jérusalem le président russe Vladimir Poutine, son homologue français Emmanuel Macron, le vice-président américain Mike Pence, le prince Charles venu d'Angleterre, le roi d'Espagne, nombre de ministres des Affaires étrangères de pays européens et bien d'autres hauts responsables et dignitaires de la planète qui seront aussi reçus par le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin. Une occasion unique en son genre que Benjamin Netanyahou compte bien utiliser pour attirer à nouveau l'attention de ses hôtes sur le brûlant dossier iranien. Je compte discuter avec eux de l'Iran, des divers développements intervenant actuellement dans la région, dans le but de renforcer nos liens avec tous ces pays, a déjà précisé Netanyahou dimanche à Jérusalem, lors du dernier conseil des ministres hebdomadaires. Des précisions intervenues dans le sillage de la très importante décision prise la semaine dernière par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni d'enclencher le processus de condamnation de l'Iran par l'ONU prévu dans l'accord de Vienne de juillet 2015 qui fut signé avec les grandes puissances mondiales, un accord lui-même censé limiter le programme nucléaire de Téhéran. Et ce, après que le régime des Mollahs est annoncé voilà 10 jours dans le sillage de l'élimination le 3 janvier dernier à Bagdad par les États-Unis du général et architerroriste Qassem Soleimani, qu'il reprenait désormais à haut rendement ses activités d'enrichissement d'uranium, ce qui constitue en soi une énorme violation du pacte de Vienne que les Européens ne pouvaient ignorer. D'où leur décision d'emboîter le pas aux Américains pour condamner l'Iran, ce qu'on n'avait encore jamais vu depuis 2015, Bruxelles faisant jusque-là sans cesse route commune avec Téhéran pour critiquer les sanctions économiques et financières américaines et tenter de devenir le partenaire commercial privilégié de l'Iran. En l'absence du président Donald Trump, qui n'a pas pu se rendre à Jérusalem pour cette occasion, trop occupé qu'il est à sa campagne électorale et surtout à combattre la procédure d'impeachment lancée contre lui au Congrès par le camp démocrate pour le destituer de ses fonctions présidentielles, une absence d'ailleurs que nombre de hauts responsables israéliens ont déploré, les deux rencontres bilatérales les plus importantes de Netanyahou durant la semaine seront son rendez-vous avec Poutine, lors duquel, à part les dossiers iraniens et syriens, il sera bien sûr question du sort et peut-être même de la libération prochaine de la jeune Israélienne Naama Issachar, condamnée voilà un mois par un tribunal russe à pas moins de 7 ans et demi d'années de prison pour avoir transporté dans ses bagages, alors qu'elle n'était qu'en transit à l'aéroport de Moscou, 9 grammes de cannabis. Une prisonnière qu'une écrasante majorité d'Israéliens souhaite voir revenir sous peu à la maison en espérant une mesure de grâce octroyée par Poutine. Netanyahou rencontrera aussi Emmanuel Macron, deux hommes qui, malgré leur nette divergence sur les dossiers iraniens et palestiniens, ont toujours entretenu de bonnes relations en éprouvant, selon les observateurs, du respect l'un envers l'autre. Macron, dont ce sera la première visite officielle en Israël, va arriver ce soir à Jérusalem et ira visiter à Roglit, près de Beth Shemesh, le mémorial des 80 000 juifs de France déportés par les nazis, qui se trouve dans la vallée de Emek Haela, entouré d'une forêt de 80 000 arbres. Macron, qui rencontrera aussi 500 franco-israéliens lors d'un événement organisé par le CRIF, va aussi s'entretenir avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Quant au ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui accompagnera Macron, il a prévu une visite au cimetière de Givat Shaul à Jérusalem pour se rendre sur les tombes de 9 juifs de France victimes d'attaques terroristes sur le territoire de l'Hexagone. Nous avons émergé des fosses de la mort, refondé notre État, réussi à le hisser à la plus grande décennie de son histoire depuis 1948, et ce, alors que cet État se dirige désormais vers de nouvelles réalisations encore sans précédent, a déclaré Netanyahou en donnant un avant-goût de son intervention de ce jeudi à Yad Vashem. Mais tout au long de ce formidable périple, a-t-il continué, nous n'avons jamais oublié nos frères et nos sœurs massacrés pendant la Shoah. Nous confirmerons à tout jamais l'éternité d'Israël, ce qu'en hébreu on appelle le Netzar Israël, en gardant toujours à l'esprit leur mémoire et chacun de leurs noms. Fin de citation. Deuxième titre, Iran encore, avec la publication du rapport annuel de l'Institut israélien des études nationales de sécurité, l'IIENS, qui recommande aux dirigeants de l'État hébreu de se préparer à tous les niveaux à une prochaine guerre Iran-États-Unis qui impliquera nécessairement Israël. Selon cet institut, l'absence, pour l'instant, d'un gouvernement stable en Israël risque de porter atteinte aux capacités du pays d'atteindre ses objectifs sécuritaires et internationaux, à l'heure justement où les tensions ne font que monter dans la région suite à l'élimination de Qassem Soleimani par les Américains et de l'escalade iranienne qui s'en est suivie, ce qui risque de devenir très problématique pour Israël en cas d'irruption d'une guerre généralisée qui enflammerait tout le Moyen-Orient. Remis par son directeur Amos Yadlin, au président de l'État, Reuven Rivlin, ce rapport comporte une toute récente actualisation liée aux suites prévisibles du bras de fer actuel entre Téhéran et Washington. Selon ce document, je cite, « La crise et l'impasse politique quasi permanente subie par Israël depuis presque une année rendent bien plus difficile l'adaptation et la révision nécessaire de nouvelles stratégies aptes à répondre aux nouveaux défis qui assaillent le pays. » Parmi ces défis les plus urgents, poursuit le rapport, la détermination renforcée de l'Iran à se doter d'armes nucléaires et à déployer une importante présence militaire en Syrie pour agir contre Israël. Et ce, parallèlement au fait que le Hezbollah, lui aussi présent en Syrie en plus du Liban, a stocké d'importantes quantités d'armes de précision pouvant toucher tout le territoire israélien. Fin de citation. Ce document précise aussi que, quelles étaient les intentions de Washington en éliminant Soleimani, la situation actuelle est si explosive que comme Israël doit se tenir prêt à être confronté à une guerre régionale multifront, au nord, au sud, et aussi en profondeur à l'intérieur du territoire national par des attaques massives aux missiles qui toucheront les centres urbains, il lui faut réviser d'urgence ses préparatifs à ce genre de scénario pouvant se concrétiser d'une semaine à l'autre, voire d'un jour à l'autre. D'autant que l'Iran prépare une riposte multiforme à l'élimination de Soleimani qui touchera les intérêts américains dans la région, voire même sur place aux États-Unis, mais aussi les alliés des Américains dont Israël et aussi les pays arabes sunnites modérés. Quant au scénario concernant l'acquisition de l'arme nucléaire par Téhéran, le rapport prévoit une hypothèse classique qui verrait l'Iran continuer ses préparatifs graduels dans ce but et une autre hypothèse bien plus accélérée et dangereuse qui permettrait à Téhéran d'arriver à préparer une première bombe et à franchir le seuil nucléaire d'ici la fin 2020, une possibilité confirmée voilà 10 jours par les renseignements de Tsahal. Parmi les autres défis auxquels Israël se trouve aujourd'hui confronté, toujours selon ce rapport, le canal indirect de discussion avec le Hamas de Gaza, pour que celui-ci réduise les tensions et accepte une trêve prolongée avec Israël, une perspective loin d'être acquise vu les tensions en son sein et la surenchère des autres groupes terroristes de Gaza, comme le djihad islamique, qui, bien que d'obédience sunnite, est aux ordres de l'Iran chiite. Ce rapport mentionne aussi le plan du siècle préparé par l'administration Trump, censé aider à conclure la paix entre Israël et l'autorité palestinienne, en recommandant à Washington de ne plus attendre pour publier son plan, alors qu'aucun des politiciens en lice dans la joute électorale israélienne, voulant en rester ou devenir Premier ministre, ne le mentionne jamais. C'est à présent la fin de ce journal de Koulam Radio depuis Jérusalem. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous pour notre prochain bulletin d'information.